C'est-à-dire que les Israéliens n'étaient pas seulement venus en Suisse pour fonder le mouvement sioniste, mais pour donner de la Torah aux médecins de la diaspora et à ses frontements. C'était une expérience assez profonde. La troisième impression que j'ai eue est un peu plus grave, un peu plus négative et rejoint votre question. J'ai senti une espèce de tension, peut-être plus qu'une tension, entre les rabbins israéliens et les rabbins américains en particulier. Précisément à cause de ce problème, l'accent mis sur la légalité, le légalisme, ou l'accent mis sur la moralité. Je peux vous donner d'exemples, après tout, si vous voulez, je peux vous donner un exemple, à condition que je sois assuré que c'est l'eau les pires sous lesquels on débranche le micro aussi. Comment on débranche?
On dit les débrancher.
Vous m'entendez? Oui. C'est rare. Alors, on a posé l'exemple suivant. Je vais un peu schématiser, parce que je ne suis pas technicien de cette technique-là. Vous me corrigerez les médecins ainsi. Imaginons donc le cas suivant. Il y a un seul respirateur, c'est comme ça qu'on appelle, dans un hôpital. Et puis voilà qu'arrive un malade qui a 80 ans. On le branche sur l'appareil. Une heure après, arrive un malade qui a 30 ans. Question, que dit la halakha sur ce problème-là? Est-ce qu'il faut débrancher le malade qui est en vieillard et brancher l'appareil sur le jeune homme, ou est-ce qu'il faut laisser le vieillard dans l'appareil et laisser mourir le jeune homme? Il y a une discussion de 2 heures. En fin de compte, la tendance légaliste consistait à dire le principe, c'est l'absolu de l'importance de la vie humaine, on ne touche pas. L'appareil est branché sur un être vivant, débrancher l'appareil, c'est le tuer. Oui, mais l'autre cas. L'autre cas est arrivé après, ça ne m'intéresse pas, c'est un autre cas. C'est ce cas-là pour lequel je dois dire quelle est la loi. C'est terrifiant comme sujet. Imaginez l'angoisse des médecins et des rabbins. La deuxième thèse consisterait à dire pour quelle raison la halakha décide que la vie est un infini indivisible et qu'on ne change pas une vie pour une vie. Et alors, il y a une discussion halakhique très longue. Un des arguments était parce que même s'il s'agit d'un méchant, c'est-à-dire hors la loi morale, on ne sait pas ce que sa descendance serait. Et donc il faut le sauver. À ce moment-là, un médecin est intervenu en disant oui, mais un homme de 80 ans de descendance, c'est l'homme de 30 ans duquel il faut parler de descendance. On s'est arrêté sur un tekou, c'est-à-dire, traditionnellement, tekou, ça veut dire qu'un homme s'y viendra et nous dira comment il faut faire. Donc, on va attendre. Parce que ce sont des questions urgentes et immédiates. Ça veut dire que chacun est revenu dans son fort intérieur de conviction. Pour prendre cet exemple, ce que j'ai ressenti, c'est que les rabbins de la diaspora ont plus tendance à être légalistes et que les rabbins d'Israël ont plus tendance à considérer qu'il faut que la loi corresponde au cas concret. Parce que nous avons affaire à une société différente. Ce n'est plus l'étude théorique, académique, comme on dit, la vérité de la loi, dans tous les cas, c'est maintenant une loi morale immédiate dont il faut disposer parce que ça nous rend force de loi légale en Israël. Et donc ces problèmes-là sont assez sérieux.
Et je suis persuadé, j'ai fini l'exemple, que c'est très relié à votre question. Cette distinction entre l'éthique juive et la halakha est très dangereuse. Je crois que ce midrash a désigné ce problème. Si la halakha n'est pas branchée sur les valeurs des patriarches, les anges refusent de donner la loi à Moïse. Alors si les rabbins du midrash ont pressenti cela il y a si longtemps, c'est un problème extrêmement grave et très sérieux.
Je me suis soulevé la question de la
halakha. Oui.
Et si l'on disait un homme de 30 ans et un homme de 30 ans?
La question théorique resterait.
C'est un choix d'une vie par rapport à une autre vie.
Oui, je pourrais donner que mon avis personnel, je n'engage ni la halakha ni la médecine.
Encore que la question de l'âme, c'est pas tout à fait discutable.
Oui, ça a été envisagé. Je pourrais vous donner que ma réaction de sensibilité personnelle. À ce moment-là, après accord sur les principes entre le rabbin et le médecin, ce n'est que le médecin qui peut décider si, dans son diagnostic de médecin, il considère que les chances de survie sont plus grandes d'un côté que de l'autre. Mais pour la halakhiste, la question est refusée. Vous avez compris? Okay. Attendez, je voudrais vous raconter une histoire. Alors là, j'en ai quand j'étais jeune éducateur, Vous savez, moi, je suis comme un éducateur. J'ai eu à m'occuper d'un problème de halakha extrêmement épineux. Où en fait, on revenait, d'après la halakha, il fallait faire divorcer un juge élu. Je ne raconte pas les détails, ça n'intéresse personne. Et donc, j'ai pris conseil de mon rabbin. Et alors, mon rabbin m'a répondu, oui, c'est vrai, la halakha est comme ça. Mais tu sais, il ne faut pas faire comme ça. Il faut être beaucoup plus gentil que ça. Je dis, il m'a répondu avec son cœur. Est-ce que c'est vraiment la halakha? Vous allez voir un deuxième rabbin, d'une tendance un peu différente. Je lui posais le cas, il me dit, vous avez raison, la halakha est comme ça. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes rabbin officiel? Non. Alors vous n'en pouvez pas laisser tomber. Ça veut dire que j'envoie le cas au tribunal. Jamais de la vie. S'ils veulent aller au tribunal, qu'ils aillent au tribunal. Bon. J'ai dit, lui, c'est un marteau. Super. Légal. Bon. Il n'était pas satisfait. Je voulais voir un troisième pas. Un chassis. Alors je lui présente le cas. On parlait hébreu parce que lui ne parlait pas français. Moi, je ne parlais pas français. C'était un peu laborieux. Ça a duré 4 ans. Je lui présente le cas. Il me dit, mais tu es sûr de connaître bien la halakha? Je dis, je crois. Il me dit, on va voir. Assieds-toi, on oublie. Ça a duré 4 ans. Alors, au fur et à mesure qu'on a étudié, Torah, Gemara, Rishonim, Rashi, Tosfot, Rishonim, Aharonim, jusqu'aux décisionnaires contemporains, j'étais de plus en plus convaincu que c'était bien ça qu'il fallait faire, il fallait faire divorcer. À la fin, il me dit, tu connais bien la halakha? Et oui, c'est évident. Il me regarde, il me dit, et maintenant dis-moi, qui tu es toi? Pour faire divorcer deux juifs. Alors finalement, les trois rabbins ont donné la même réponse. Chacun sa manière. Mais finalement, la leçon de la halakha a été prise avec le troisième. Alors il m'a donné le principe que je connaissais, mais je n'arrivais pas à tester jamais. Il dit, car qui halakha? La halakha est comme ça. Véno morika. Et on n'enseigne pas comme ça. Et après, je demandais à notre école. C'est-à-dire, c'est vrai, la halakha, comme halakha, connaissance de la halakha, c'est comme ça. Mais pour la réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que nous savons déjà que notre réalité ne correspond plus à ce niveau-là de la halakha théorique. Un exemple, c'est la peine de mort. Vous connaissez cet enseignement du Talmud? Un tribunal qui condamne à mort une fois en 70 ans est appelé tribunal d'assassin. C'était au niveau du Talmud, il y a 2000 ans, plus. Okay. Et ça veut dire quoi? Que la peine de mort est immorale? Pas du tout. Ça veut dire qu'on ne sent plus au niveau de moralité où la peine de mort apporte de loi. Parce que si on a à décréter une peine de mort une fois en 70 ans, c'est un monde cohérent. Mais si c'est tous les jours qu'il faut décréter une peine de mort, c'est que cette loi n'est plus à notre niveau. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et c'est donc pas des chutes de moralité qu'on met la peine de mort entre parenthèses, et pas par progrès de moralité, c'est juste l'inverse. Okay. Je vais donner une fois un exemple en pédagogie. Je crois qu'il est normal qu'un enfant reçoive une raclée une fois dans sa vie, parce que ça, sinon ça lui manque. Mais si les parents donnent une raclée par jour à leurs enfants, il faut faire soigner les parents. ça ressemble à ça. Et voilà, vous voyez pourquoi ces problèmes sont extrêmement épineux, et qu'au fond, l'issue dépend d'une question de sensibilité profonde qui se relie à votre question et à ce midrash. Si Moïse est le Moïse d'Abraham, il y a un espoir que ça s'arrange. Mais si la loi est autonomisée en légalité, quelles que soient les dissertations fondées sur l'éthique juive, on n'a plus de Torah. Est-ce que c'est clair? Et inversement, d'ailleurs, si une morale d'intention ne s'exprime pas dans une loi réelle, on n'a plus non plus de Torah. Alors, c'est, je crois, le problème de notre contemporanéité. J'ai simplement tenu à vous signaler cette différence de sensibilité qui nous a vraiment inquiétés parce que ça ressemble déjà, je dis bien, ça ressemble au conflit entre les pharisiens et les sadducéens. Et vous savez ce qui en est résulté. Est-ce qu'il y a une autre question?
J'en ai trois.
Oui, je sais.
Vous avez dit que la période de l'Homère était une période de vulnérabilité. L'Homère finit à Shavuot, or, il y a le veau d'or après Shavuot. C'est plus vulnérable que... Enfin, c'est le comble de la vulnérabilité. Oui.
Bon. Là, vous m'aurez un sujet de séminaire. Hein.
Oui, pour vous répondre si vous voulez. Deuxièmement, comment les anges peuvent-ils en vouloir à Moïse au point de vouloir porter la main, si j'ose dire aussi, sur lui, en restant des anges?
Eh oui, ça, il y a un autre midrash qui parle d'autre chose. Il suffit qu'un ange regarde un homme et l'homme s'évanouit. Ah. Ou alors, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un ange.
Et troisième question, vous avez dit qu'à
la mise en présence, ça ne le compte pas.
Oui. Troisième, vous avez dit qu'à partir du repas offert par Abraham aux anges, on avait commencé à manger cachère.
Non, je relis ça. J'ai parlé trop vite.
Vous avez déjà mangé.
Non, j'ai dit deux choses. Que les anges avaient profité de l'hospitalité d'Abraham. Est-ce qu'ils ont honte d'Abraham? Est-ce que l'absolu de sainteté n'a pas honte de la moralité élémentaire? Et deuxièmement, j'ai dit que, après tout, si les anges ont mangé chez Abraham, ça veut dire que des anges peuvent manger cachère chez des hommes.
Mais seulement.
Ah, je voulais dire que le repas qu'on leur a donné, c'était un repas cachère.
Mais non.
Si, je connais.
Mais écoutez, oui, je sais, mais il y a quelque chose qui m'a toujours trouvé. Il y a Abraham qui vient à Sarah, fait cuire un chevreau et apporte de la crème.
Oui, c'est du beurre, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est dit.
Alors, on m'a posé aussi la question, je ne sais pas si
vous voulez. Bon, j'aurais une réponse possible. C'était du beurre d'ange et de la crème d'ange. Mais, non, en fait, la question a été étudiée dans les commentaires du Midrash, et vous savez très bien qu'il y a un ordre. On peut d'abord manger le lait et ensuite la viande. Non, mais votre question reste, elle est importante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée, plus la signification qu'il y a dans ce Midrash, c'est que cet épisode, qui nous est incompréhensible, que c'est ça des anges qui sont là sur Terre, ça veut dire que ceux d'en haut, de l'absolu, peuvent vivre la voie chez ceux d'en haut. C'est un Midrash extrêmement profond. Et je vois que notre problème est bien celui-là, le risque de tension entre la moralité et la légalité. Or, sans la moralité, il n'y a pas de Torah, sans la légalité non plus. Vous savez, toute cette querelle entre la lettre et l'esprit. Comment le dire rapidement, si on ne lit pas ce livre à la lettre, il n'y a plus d'esprit. C'est évident. Mais si on ne le lit qu'à la lettre, est-ce qu'il y a de l'esprit? C'est ça le problème. Et je crois que la permanence de la tradition juive est celle qui s'est tenue à l'unité de ces deux polarités, la morale et la loi. Et c'est pourquoi cette Torah, c'est la loi du récit historique de l'histoire des patriarches et la révélation des commandements de Moïse. L'un coupé de l'autre, c'est perdu. Oui. Attendez, je crois que madame m'avait demandé d'abord.
Est-ce qu'on connaît la tradition des Falachas aujourd'hui entre Pessah et Shavuot?
Je vous avoue, je ne vais pas vous répondre très en détail, je vais dire deux choses. Ceux que vous appelez les Falachas sont arrivés en Israël, ils nous ont demandé instamment de ne plus les appeler des Falachas. Ça les gêne. C'est comme si on nous appelait ici Youpin, dans la banque. Oui. Oui. Et ils nous demandent de les appeler des Juifs étudiants. C'est des vrais Juifs. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, on nous appelait des Juifs français. Donc, tout va bien. Mais, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. En particulier ce qui suit la période du premier temple. Puisqu'ils descendent, c'est un problème beaucoup plus compliqué que ça, mais schématiquement, ils descendent d'une des tribus, la tribu de Dan, d'après leur propre tradition et d'après aussi la confirmation de rabbins qu'ils ont visités à travers les siècles, et par conséquent, ils descendent des Hébreux du premier temps. Donc tout ce qui s'est passé après, ils ne le connaissent pas, par exemple, ils ne connaissent pas Pourim. Dans cette question particulière, je ne peux pas vous répondre. Si leur homère, en tant que période de deuil, est connu par eux ou pas. En tout cas, vous me fournissez une question que je vais leur poser. Okay.
Je voulais vous demander, est-ce qu'il est possible, là, vous avez donné les dates de commémoration, est-ce que vous pensez qu'un jour il sera possible de faire une Megillah de la Shoah?
Je crois que non seulement il est possible, mais c'est prévu par la Gemara, une Agada de la Shoah. C'est prévu par la Gemara, c'est la fin du premier chapitre du traité de Brachot, qu'il arrivera à un temps où on ne racontera plus le récit de la sortie d'Égypte, mais celui de la fin de Shirbud Malchuyot. Il y a une discussion dans le monde entre Benzoma et Chachamim, et alors les Chachamim et Benzoma, ça ne veut pas dire qu'on va oublier la sortie d'Égypte. Mais ça sera contingent par rapport à l'essentiel qui sera le récit de la dernière libération. Et je crois que nous allons avoir un exemple dans la Avodah Pessah que nous avons déjà. La sortie d'Abraham de Ur-Kasdim, qui est le même événement, c'est une petite préface d'introduction en une phrase. Okay? Et le gros plan du récit, c'est la sortie d'Égypte. Probablement que le Sanhédrin de ce temps-là, lorsqu'il nous emmènera la Haggadah de la fin des temps, rappellera tout le récit de la sortie d'Égypte en une Mishnah, et que le gros du récit sera ce que vous avez appelé la Megillah de la Shoah, mais qu'il faudrait appeler la Haggadah de la Shoah. Okay? Est-ce qu'il y a une
oui, j'ai dit quelque part, mais comme je ne peux pas vous donner la référence, ma question vers l'histoire et la valeur, que pendant toute sa vie, Rabbi Akiva avait refusé à Rabbi Shimon bar Yochai le titre de Rabbi. Et à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure, la signification qu'on veut particulièrement, le dernier en ce qui concerne l'intimité, l'intériorité de la loi orale, de la transmission.
Écoutez, je vous avoue que je ne connais pas du tout cette tradition, je n'ai jamais lu cela. Si, n'ayant pas lu comment c'est écrit, je ne sais pas comment vous répondre, mais il y a une réponse éventuelle, mais hypothétique. Si nous avons une règle, c'est qu'il y a des niveaux dans l'autorité des rabbiniers, plus grand que Rabbi, et d'abord Ribi, ensuite Rabbi, mais plus grand que Rabbi, c'est Rabban, et plus la règle dit plus grand que Rabban, Shmo, c'est son nom. C'est-à-dire qu'il est tellement haut qu'il n'y a plus de titre pour lui. Il est possible que ça aille dans ce sens-là, qu'il l'a fait par son nom. Okay. Vous avez compris le problème ? Par exemple, pour donner un exemple, nous avons de grands Tanaïm auxquels on ne donne pas de titre. Par exemple, Aoula, Sunchos. Ce sont des grands Tanaïm, on ne dit pas Rabbi Aoula ou Rabban Aoula. C'est plus haut que ça. Et on a enseigné à propos, je crois que je voulais citer à propos du séminaire sur Maïmonique, peut-être, c'est très ancien comme tradition, la différence du titre qu'on donnait à Maïmonide, qui s'appelait Moïse, Moshe, et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Moïse notre maître. Moshe Rabbeinu. Et Maïmonide, on l'appelait Rabbeinu Moshe. Le rabbin Rabbi Yosef, qui était un des derniers grands rabbins d'Israël, a donné une explication qui est que la Torah nous raconte d'abord la vie de Moïse, et ensuite, elle nous dit son enseignement. Tandis que pour Maïmonide, ça a été l'inverse. On a d'abord connu son enseignement, après on s'est intéressé à sa vie. Alors, mon cher Rabbeinu, Rabbeinu mon cher. Mais il y a une exception. Au début des textes des Pirkei Avot qu'on lit entre Pessah et Shavuot d'Arka, on ne dit pas mon cher Rabbeinu qui veut le Torah Mishinaï, on dit mon cher qui veut le Torah Mishinaï. Ce que j'ai entendu de notre maître, M. Lourdes, c'est que là-bas, il n'était pas notre maître, il était l'élève de Kadosh Baruch Hu. Alors on l'appelle Moshe. Vous avez compris de la le... Okay.
Par exemple, ce problème de la halakha et de la moralité dans l'éducation des enfants, par exemple. Oui.
Je voulais être bien précis, parce que c'est un sujet des œufs de Pâques. Si j'ose dire. Je n'ai pas dit, même si j'ai dit, je voudrais corriger la halakha et la moralité. J'ai dit la légalité et la moralité. Je ne crois pas du tout que la halakha, c'est du légalisme. Okay? Mais lorsque la halakha devient légaliste, alors il s'agit de la légalité et de la moralité. Vous comprenez bien ce que je dis?
Je voulais dire, par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est un sujet tout particulier où se pose ce genre de problème.
C'est certain, en éducation en général. C'est pourquoi la Torah a sa propre pédagogie. Elle nous raconte l'histoire des patriarches, elle nous révèle les midotes, comme nous disons, les valeurs qui font Israël, d'abord Chesed, ensuite Din, ensuite Rahamim, Emet, dans cet ordre-là. Parce que si on n'a pas d'abord la vertu de charité, alors on n'arrivera jamais à la vertu de charité. Si on commence par la vertu de rigueur, on n'arrive jamais à la vertu de charité. Mais si on a d'abord la vertu de charité avec le miracle de la naissance d'Isaac, on arrive ensuite au deuxième stade, la vertu de rigueur, et c'est pas encore Israël. Et alors après, il faut unifier les deux. Je vous ai donné, je crois, dans un séminaire, un remède, qui est que l'ordre, c'est Chesed Din Rahamim, l'initial des lettres s'appelle Heder. Heder, c'est le mot qui veut dire le Talmud Torah, on étudie le Torah, la Heder. Si on change l'ordre des lettres, il n'y a plus de Torah. Si on change l'ordre des valeurs, il n'y a plus de Torah. C'est pourquoi la Torah, très intentionnellement, nous dit ce que Descartes appelait dans son langage l'ordre des vertus. C'est d'abord Chesed, Abraham, ensuite Din, Isaac, alors on arrive à Jacob, Israël, Emet. D'abord passer par là. Et après seulement intervient Moïse et la loi. Nous vivons dans un temps chaotique, tout se passe à la fois, tout se passe en désordre, et pas dans l'ordre qu'il faudrait. Mais il faut savoir qu'il y a une règle, malgré tout, de tikkun, de remise en ordre, tout cela, et que s'il n'y a pas cette base de l'identité des Avot, la halakha risque de devenir sadducéenne, risque de devenir n'importe quoi. Et nous sommes dans un temps de rassemblement, de résurgence de notre identité hébraïque, et ces problèmes-là deviennent urgents. C'est pourquoi, je ne vous le cache pas, j'ai choisi ce midrash de Moïse et Abraham comme motif central de cette analyse.
Bien. Excusez-moi encore une fois. Vous avez dit que Homer, ça voulait dire la gerbe. Et dit, l'Homer, c'est le quart de l'Epha.
Oui, l'Epha, c'est une mesure.
Une mesure, alors moi je croyais que c'était une mesure qu'on apportait, une mesure de grain.
Vous avez raison, parce que Homer, ça veut dire aussi une mesure de grain équivalent à une gerbe.
Ah, Homer. Non, mais parce qu'on dit qu'on ne balançait, on ne peut pas balancer.
Oui, non, c'est de la gerbe, Homer. Bien.
Est-ce qu'avant la destruction, avant la destruction du temple, oui. Est-ce que la période de mer était une période aussi considérée comme vulnérable et...
Absolument, puisque le Midrash nous fait remonter cette vulnérabilité au commencement de notre histoire. Joseph et ses frères. Oui, alors une dernière question avec... Écoutez, je vais vous donner une réponse provisoire. Ça veut dire une des deux communautés considère que Pessah est déjà acquis. Et qu'il faut obtenir Shavuot, alors on compte les jours qui nous séparent encore de Shavuot. L'autre communauté considère que Shavuot est déjà acquis et qu'il faut remériter Pessah, et c'est pourquoi on compte les jours qui nous distancient de Pessah. Et voilà, je ne vous dirai pas laquelle, vous le savez évidemment. Bien, bonsoir et bonsoir.